Bonjour, bonjour à chacune, à chacun. Ce matin, j'aimerais que nous puissions revenir sur ce chapitre de l'évangile de Jean. Jean chapitre 10. Ah, c'est un chapitre, effectivement, où on voit plusieurs choses. Et je vais juste en effleurer quelques-unes en introduction, parce que je veux retenir dans ce chapitre une seule chose pour ce matin. Néanmoins, c'est vrai que dans ce chapitre, nous voyons comment Jésus continue de dire qui il est. Il dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Et tout à l'heure, Jean-Denis nous a rapporté cette question d'hier au stand biblique sur le marché. On dit, alors si Jésus c'est Dieu, alors Dieu est mort. Oui. Seulement, qu'est-ce que la mort? Et dans la Bible, la mort n'est jamais cesser d'exister. Mourir, ce n'est pas cesser d'exister. C'est changer d'état. Un petit peu comme l'eau, de l'eau liquide, elle est là, puis tout d'un coup, elle n'est plus là. Elle s'est évaporée. Elle imbibait votre linge, vous l'avez mis au soleil, l'eau était là, elle n'y est plus, où est-elle? A-t-elle cessé d'exister? Ah, on la voit pas. Ça, c'est vrai que l'évaporation pourrait nous sembler une cessation d'existence. Il n'en est rien. Elle est sous forme de vapeur. Un autre état. Et la mort, c'est ça, c'est changer d'état, c'est cette évaporation, la fin d'une étape corporelle, la fin d'un état qui s'inscrit dans la matière, dans le corps. Et mourir, ce n'est pas cesser d'exister. L'esprit, l'âme, continue parfaitement d'exister. Et c'est intéressant de voir Jésus. Parce que justement, lui, qui existait en forme de Dieu, qui était Dieu, qui était auprès de Dieu, qu'a-t-il fait? Il a changé d'état pour prendre une forme physique, corporelle, un petit peu comme si la vapeur disait, tiens, hop, je vais changer d'état et je vais me rendre visible. En devenant liquide ou même en glace solide, hein, je change d'état. Je prends corps. Et c'est ce que Dieu a fait en se faisant homme. Amen. Et puis il dit, mais moi je donne ma vie. Et c'est vrai qu'il va mourir, c'est-à-dire changer d'état comme l'eau va s'évaporer sans cesser d'exister. Mais regardez ce que nous dit ce chapitre. Il dit, au verset 18, j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Et là Jésus dit, attention! Normalement, les êtres humains sont un petit peu comme des gouttes d'eau qui, une fois qu'elles se sont évaporées, ne peuvent plus revenir en arrière. Elles sont devenues vapeur, elles sont vapeur, c'est fini, on ne peut plus revenir à l'état liquide. Un être humain, lorsqu'il change d'état, c'est-à-dire lorsqu'il meurt et qu'il quitte son corps, le retour en arrière n'est pas possible. Mais Jésus dit, mais par contre, vous savez, moi, je peux revenir en arrière. Je vais donner ma vie, puis je vais la reprendre. Ça, c'est fort, il annonce sa résurrection. Mais oui, il est Dieu. Il est Dieu qui se fait homme, qui prend cet état, qui vient dans notre état, qui donne sa vie d'état d'homme. et puis qui la reprend. Et ça, c'est formidable parce que c'est une espérance pour nous. Et nous pouvons placer notre confiance en Jésus. Parce que il est mort et il est ressuscité. C'est pourquoi à Pâques, nous disons, le Seigneur est réellement ressuscité. Amen. Et combien de témoins l'ont attesté au prix de leur vie dans les premières années de l'Évangile. Dans ce chapitre, oh, nous voyons d'autres choses, nous voyons l'humour de Jésus. J'aime bien quand il parle aux gens, il a quand même de l'humour. Hein. On veut le lapider, il trouve encore le temps de faire un peu d'humour. Il dit, pour laquelle de ses bonnes œuvres, de mes bonnes œuvres, il dit, j'ai fait plusieurs bonnes œuvres, pour laquelle me lapidez-vous? Mais quand vous voyez le contexte, ça se tord de rire quand même. Hein. C'est cet humour un peu piquant face à ceux qui veulent le lapider. Il dit, alors, vous voulez me lapider pour laquelle de mes bonnes œuvres, là? C'est pas pour une bonne œuvre, c'est pour un blasphème. L'humour, moi ça me fait rire. Nous voyons également, au verset 35, simplement un très court passage, nous en parlions vendredi, à propos de l'inspiration des Écritures. Et là, Jésus qui dit, en parlant d'un passage de l'Ancien Testament, il dit en quelque sorte, ce qui est écrit, c'est écrit, on ne peut pas revenir dessus, la parole de Dieu est pleine, entière, vérité, elle n'est pas que pour un temps, etc. C'est écrit. Il dit, l'écriture ne peut pas être anéantie. Hein? C'est simplement un petit clin d'œil hein, qu'on trouve dans ce chapitre, un petit aspect théologique. Mais ce matin, ce n'est pas du tout ça que je veux parler. Ce chapitre, moi c'est un chapitre, quand je le lis, qui me donne envie de pleurer. Je ne sais pas vous, mais c'est un chapitre dans lequel vous voyez toute la tendresse de Jésus. Un petit peu comme parfois vous relisez une carte que quelqu'un vous a écrite, peut-être pour votre anniversaire. Il y a longtemps, avec des mots d'affection. Puis vous la relisez, ça vous fait un petit quelque chose. Ça vous fait... Ouh. Vous voyez toute la tendresse qui est là. Eh bien, en lisant ce chapitre 10, c'est un passage qui me rappelle toute la tendresse de Jésus pour nous. Et c'est ça que j'aimerais partager ce matin avec vous. La tendresse du bon berger. Jésus fait une comparaison. Il se compare à un berger qui a des brebis. Et dans l'exemple ici, il y a une bergerie avec une porte et un gardien de la bergerie. Et un gardien qui ne laisse entrer que le berger des brebis et non pas n'importe qui. Parce qu'effectivement, à l'époque, les bergers, et souvent, surtout ceux qui n'avaient pas forcément un troupeau très nombreux, eh bien, avaient une bergerie commune et se mettaient ensemble pour avoir quelqu'un qui puisse veiller sur les brebis pendant la nuit, une fois que eux, leur travail de berger, les amenaient au pâturage, etc., etc. Eh bien, pour la nuit, on les ramène à la bergerie et pour éviter de se les faire voler, eh bien, il va y avoir quelqu'un qui va les garder dans la bergerie. Et le lendemain matin, eh bien, il va y avoir 3, 4, 5 bergers qui chacun ont 10, 12 brebis. Et puis voilà, il y a peut-être 70 brebis dans cette bergerie. On va dire, mais comment il va retrouver les siennes ? Oh, ben, c'est très simple. Les brebis connaissent ma voix. Je les appelle par leur nom. Et vous avez le berger qui effectivement va se présenter. Et ça ne sera pas très compliqué. Il va faire son petit appel de berger habituel. Et les brebis vont reconnaître sa voix et vont venir. Jésus va aussi se comparer à la porte elle-même des brebis. Il dit, je suis la porte. On entre, on sort pour trouver des pâturages. Et puis, il va enfin dire, je suis le bon berger, non pas un mercenaire. Vous pouvez avoir un berger qui fait le job de berger, mais les brebis ne lui appartiennent pas. C'est-à-dire que c'est un employé. Il n'y a pas du tout le même rapport. Il est payé pour un job, c'est de sortir les brebis, etc. Et il y trouve son intérêt, puisqu'il est payé pour ça. Mais à un moment, si les circonstances font que c'est plus tellement à son avantage, ben, taillot, hein. Il va laisser les brebis, voit le loup, et sauf qu'il peut, et l'oiseau, c'est pas ses brebis. Il dit, moi, je suis pas un mercenaire. Je donne ma vie pour mes brebis. Le rapport que j'ai avec mes brebis, c'est pas un rapport d'intérêt, un rapport mercantile, un rapport où je trouve mon avantage, et puis lorsque j'ai plus mon avantage, je laisse tomber. Non, je vais jusqu'au bout. Je donne ma vie. Alors, nous voyons plusieurs aspects de la tendresse de Jésus pour nous. Déjà, je remarque que il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Le Seigneur, dans sa tendresse, m'appelle par mon nom. Je ne suis pas un numéro. Je ne suis pas juste une brebis parmi d'autres. Le bon berger, une brebis n'est pas remplaçable par une autre, etc. Non, chaque brebis, il les connaît. Chaque brebis a sa personnalité. Il va dire, ah ben là, Noisette, elle est vagabonde, Noisette. Noisette, oh là là, méfie-toi de Noisette, elle vagabonde, elle s'échappe, elle va à droite, elle va à gauche. Il faut toujours aller courir après celle-là. Noiraude, ah, celle-là, elle est têtue. Je la connais bien, elle est têtue, alors elle a telles habitudes, etc. Alors je sais comment m'y prendre avec elle. Son petit caractère. Pichenette, elle est craintive, mais elle tremble tout le temps comme une feuille. Un petit bruit, ouf ! Alors voilà, il faut la rassurer, etc. Et puis, vous avez encore, aidez-moi,
Blanquette,
alors elle, faut pas l'embêter, elle est agressive. Alors, et vous voyez, chaque brebis a sa personnalité, chaque brebis a son histoire. Ah ben oui, Blanquette, elle est agressive, mais faut dire qu'avant, elle appartenait à un berger. Dès qu'elle filait pas droit, il lui tapait dessus. Alors elle en a reçu des coups. Alors du coup, maintenant, elle tape avant de... hein ? Ça ne s'est pas marché dessus, celle-là. Vous voyez, chaque brebis a son histoire. Il les connaît par leur nom. Il sait quand l'une s'est blessée, ou si elle a eu une maladie, ou si elle a eu une frayeur. Eh bien ça, mes amis, c'est nous. Jésus connaît chacun de nous et il nous appelle. Il nous appelle. appelle par notre nom. Il dit, viens, viens Claude, viens Gilbert, viens Adrien. Et en disant nos prénoms, il connaît notre histoire, il connaît notre caractère, il connaît nos blessures, il connaît nos joies, il connaît nos peines. Et tout ça a de la valeur pour lui. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Ah, le bon berger, il prend soin de nous, il est là pour nous, et dans cette relation, il nous appelle par notre nom. Et ce nom qu'il dit, c'est que nous ne sommes pas juste une âme parmi d'autres, comme si le Seigneur faisait un concours du nombre d'âmes qui va gagner, vous voyez. Alors moi là j'en ai quelques milliards, c'est pas mal, il faudrait que j'en rajoute, de façon très impersonnelle, absolument pas. Il y a cette relation tout à fait personnelle et tendre que Jésus a pour nous et qui est tellement bien exprimé. Il les appelle par leur nom. Amen, mes amis. Les brebis entendent sa voix. Elles connaissent sa voix. Le Seigneur, en tant que notre bon berger, nous parle. Il ne reste pas silencieux. Il nous adresse la parole, il communique, il nous dit des choses. Il dialogue. Et ça aussi, c'est un aspect de cette tendresse du Seigneur qui est en dialogue, en parole avec nous. Et nous pouvons connaître et reconnaître et entendre sa voix et répondre, parce que les brebis, lorsqu'elles entendent la voix du berger, elles ne restent pas inertes ou insensibles ou inactives, elles réagissent, elles agissent. Le bon berger, dans sa tendresse, nous protège. Au verset 9, il dit, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. » Nous voyons toute la tendresse de Jésus pour nous. Parfois, nous sommes dans la vie chrétienne et on se dit, voilà, y a quand même des contraintes, la sainteté, et puis tout ça, et puis il faut plaire à Dieu. Et peut-être on commence à vivre une vie chrétienne avec cette vision un petit peu sévère et solennelle de Dieu, distante ou technique. Et on oublie toute la tendresse du berger qui est venu nous arracher des mains du voleur, du prince de ce monde, de Satan, de la pensée de ce monde, une pensée qui égorge et détruit. Une tendresse qui va jusqu'au point de venir nous appeler alors que nous étions encore ennemis. L'Épître aux Romains nous dit, Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il n'est pas venu donner cet amour et cette tendresse à des gens qui déjà étaient sur la même longueur d'onde avec lui et qui répondaient avec tendresse également. Non, il est venu face à ceux qui lui crachaient au visage, face à ceux qui l'éjectaient de leur existence, face à ceux qui disaient « Laisse-moi tranquille avec tes histoires. Pas de place pour toi dans ma vie. » Mais Jésus nous a vus aux mains du mercenaire, aux mains du voleur, dont l'objectif pour la brebis n'est certainement pas de lui faire du bien, mais d'égorger, de détruire. Et Jésus dit, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. En abondance. Et nous voyons toute cette tendresse de Jésus qui nous a aimés le premier et qui nous a aimés au point de donner sa vie. Le verset 15 dit « Je donne ma vie pour mes brebis. » Le Seigneur nous tient en sécurité. Nous le voyons encore un petit peu plus loin dans ce chapitre. Au verset 28, il dit « Je leur donne la vie éternelle et ils ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » C'est formidable. Personne ne les ravira de ma main. Dans la main de Jésus, je suis en sécurité, en sûreté et personne ne peut m'enlever de sa main. Le verset 29 rajoute « Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » La main de Jésus, la main du Père, moi et mon Père, nous sommes un. Je suis dans la main de Jésus, dans la main du Père. Et il y a cette tendresse qui dit « Personne ne les ravira de ma main. » Et dis-moi, on ne va pas me les enlever. Je donne ma vie pour mes brebis. Et on se dit, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a déjà aimé aussi fort que cela? Est-ce que quelqu'un est prêt à donner sa vie pour moi? Peut-être. Mais il n'y a pas beaucoup de monde qui est prêt à littéralement faire passer sa vie, donner sa vie pour moi. Jésus l'a fait. Il m'a aimé de cet amour-là. Et nous avons besoin de nous rappeler en lisant comme ce chapitre 10. La tendresse, l'amour que Dieu a pour nous. De quel amour il nous aime. Quelle tendresse il nous manifeste. Alors, pourquoi avoir besoin de s'en rappeler? Parce que souvent, on finit par l'oublier. Tout à l'heure, je disais, parfois vous retombez sur une vieille carte de quelqu'un. C'est quelqu'un que vous voyez peut-être tous les jours, c'est quelqu'un que vous voyez régulièrement, mais peut-être c'est votre frère, votre sœur, vos enfants, un proche. Mais on ne se dit pas tout le temps, tous les jours, qu'on s'aime. Ou on ne va pas toujours le dire en appuyant, mais il y a des moments dans la vie où à certaines occasions on a spécialement envie de dire à quelqu'un combien il compte pour nous. On ne va pas lui dire tous les jours, mais il y a des moments où on va le dire. Et vous retombez comme ça sur une carte. Vous voyez là, ça me fait chaud au cœur quand même ça. Ah, j'avais oublié qu'il m'avait écrit ça. Et parfois, nous vivons notre vie chrétienne et nous oublions à quel point Jésus nous aime et a de la tendresse pour nous. Alors ça fait du bien. Ça fait du bien de reprendre conscience, de remesurer cette tendresse du bon berger. Lorsque je suis découragé, vous passez peut-être par un moment de découragement, peut-être de valeur, dire bah, de toute façon il n'y a rien qui réussit, je vois rien, je suis nul, je ne sais pas quoi ma vie, elle sert trop. Eh bien, lorsqu'on reprend conscience combien Jésus nous aime et quelle est sa tendresse pour nous, combien nous sommes précieux et il nous appelle par notre nom. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien, qu'est-ce que ça encourage. Je suis tellement précieux pour Jésus qu'il a donné sa vie pour moi. Alors comment puis-je dire personne ne m'aime, personne ne s'intéresse à moi, et puis je ne vaux rien. Nous avons quand même le Créateur, lui-même, en personne, qui a changé d'état, qui s'est fait homme, pour m'appeler par mon nom. Qui est venu me chercher. Je vois ce verset 16 où il dit: j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Ben, ces brebis-là, c'est nous. C'est moi. C'est vous. Quand Jésus parle, il s'adresse aux Juifs. Mais il dit, j'ai d'autres brebis. J'ai d'autres brebis parmi les nations. Et je vais les appeler chacune par leur nom. Je connais les brebis qui sont à moi. Il connaît aussi celles qui ne sont pas les siennes. Il le dit au verset 26. Vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais. Et elles me suivent. Ben, je suis émerveillé que moi, le Gaulois, eh bien, je suis une de ces brebis qui n'étaient pas de la bergerie, mais à laquelle Jésus pensait en disant « J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Et c'est le corps, cette famille, qu'est l'Église. Où chacun, nous venons d'horizons différents, de nationalités différentes, de conditions sociales différentes, de cultures religieuses différentes. Une seule bergerie, un seul berger. Oui, Jésus est venu me chercher, alors que j'étais d'une autre bergerie, il dit, celui-là, je vais aller le chercher. Rendez-vous compte de cet amour où Dieu dit, ah ben, un tel, il nous connaît par notre nom, Marité, celle-là je vais aller la chercher pour l'emmener dans ma bergerie, Aluisio, oui je vais aller le chercher pour l'emmener dans ma bergerie, et nous pouvons tous mettre notre prénom parce qu'il nous connaît par notre nom. Et jusqu'où il est allé nous chercher? Et quand on donne notre témoignage, par exemple, au baptême, on raconte comment Dieu est venu nous chercher, nous appeler par notre nom pour pour nous amener dans sa bergerie. Alors, lorsque nous sommes découragés, relisons ces passages qui nous parlent de l'amour, de la tendresse de Jésus. Besoin de nous rappeler combien Jésus nous aime pour vivre une vie plus sainte. Parfois, c'est vrai, nous sommes dans cette vie chrétienne et nous voulons plaire au Seigneur et nous voyons le péché qui combat dans notre vie. Il y a la chair qui combat contre l'esprit. Et nous avons envie de vivre selon l'Esprit de Dieu pour marcher dans la sainteté, dans la vérité, dans la droiture, dans ce qui est juste, bon, parfait. Et en même temps, on voit une autre loi qui combat dans notre vie, la loi du péché et de la mort. Et parfois on dit, on est là-dedans. Et on veut faire ce qui est juste et bon. Qu'est-ce qui peut nous aider? Et parfois, pour moi-même, je le dis, vous avez ce combat et vous savez ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Mais lorsque finalement dans ce combat, il n'y a que cette vision de ce qui est juste et ce qui ne l'est pas qui est là, il manque une profonde dynamique. Il manque la dynamique de l'amour. Parce que lorsque je suis pleinement conscient, empreint de combien Jésus m'a aimé et qu'il a été jusqu'à donner sa vie pour mon péché, lorsqu'on baigne dans cet amour dont nous sommes l'objet, alors il y a une réponse. On a envie d'aimer à notre tour le Seigneur et de lui plaire et de mener cette vie sainte et juste, non pas simplement parce que c'est juste qu'on le fasse moralement, mais en plus parce qu'on aime celui qui est mort à cause de notre péché pour que nous ne vivions plus de cette manière-là. Et on dit, mais quand je vois combien Jésus m'aime, je ne peux quand même pas agir comme ça. Je ne peux quand même pas lui faire ça. Et dédaigner l'amour dont qu'il a prouvé. Si je marche de cette manière charnelle, si je fais ce choix qui n'est pas tellement à la gloire de Dieu, je suis en train de dédaigner un ami. Je suis en train d'oublier celui qui m'aime d'une tendresse qui va jusqu'à donner sa vie. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de rencontrer des gens qui... Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, malgré vous, quelque part, il vous aime, il vous apprécie. Ça vous arrive? Moi, je me souviens, une collègue d'école, qui n'était pas dans mon école, que je n'avais jamais vue, et j'arrive à une réunion, Adrien et tout, elle connaissait toute ma vie, connaissait ma femme, ce qu'elle faisait, tout ça. Savait que j'avais 4 filles. Alors elle avait 5 filles, alors forcément. Bon. Voilà. Et voilà, c'est quelqu'un qui est là et hop, elle a envie d'être votre amie, quoi. Eh ben, sauf si c'est quelqu'un de farfelu qui s'accroche et qui devient un boulet, parce qu'il y a des gens aussi qui vous aiment, mais c'est un amour un peu nocif, vous voyez. Mais quand c'est pas le cas, ben quelqu'un qui vous manifeste de la gentillesse, etc., On finit par l'aimer, hein. Qu'est-ce que vous voulez, hein? Et c'est chouette. Parce que l'amour répond à l'amour. Et quand quelqu'un vous manifeste de l'amour, à votre tour, vous rentrez dans cette relation. Et c'est pareil avec Dieu. Plus on prend conscience combien Dieu nous aime, plus notre amour pour lui va se réchauffer. Et finalement, on ne va pas pouvoir s'empêcher de l'aimer, parce que tellement il nous aime, mais de manière équilibrée. Quand même incroyable d'être aimé comme ça. C'est communicatif. C'est un amour communicatif. Et justement, nous avons besoin que notre vie chrétienne ne soit pas juste une vie morale et spirituelle, j'ai envie de dire consciente des choses spirituelles, qui prie, qui... Mais où il manque l'amour. C'est pas possible qu'il manque l'amour. C'est au centre de la vie chrétienne, de la relation, parce que Dieu est venu parce qu'il nous aime. Et nous pouvons l'aimer à notre tour. C'est l'épître de Jean qui le dit. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Alors on a besoin de réchauffer tout ça. Peut-être notre vie chrétienne, parfois on ne sait plus trop, on est occupé dans notre vie professionnelle, dans notre vie familiale, on n'a plus tellement de temps pour le Seigneur, on sait... Le service pour Dieu, oui, il faudrait que je serve davantage dans l'église. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Réchauffons l'amour. Rappelons-nous de quel amour nous sommes aimés. Et quand on va reprendre conscience de quelle tendresse le Sauveur nous aime, alors, notre amour pour lui va se réchauffer, va commencer à mieux couler. Et notre vie chrétienne, eh bien, les choses vont se mettre en place, parce que ça va partir de l'amour que nous voulons rendre à notre Sauveur. Alors, nous avons besoin de nous poser la question, est-ce que j'aime Jésus? Et tous, on va dire oui, je l'aime. Oui, je l'aime. Mais est-ce que l'amour que nous avons pour le Seigneur, c'est cette tendresse réciproque qui est là et que nous vivons face à lui? Parce qu'il appelle les brebis, il leur parle, ils connaissent sa voix, les brebis répondent. Est-ce que nous avons ce dialogue d'amour avec Jésus au quotidien? Et puis cela nous amène à nous interroger plus loin. Est-ce que face à Dieu qui m'aime, je l'aime en retour, et j'ai envie de dire oui? Seulement, l'apôtre Jean dit ceci: si quelqu'un dit qu'il aime Dieu mais qu'il n'aime pas son frère, c'est un menteur. Comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas s'il n'aime pas son frère qu'il voit? Et là, nous avons besoin de nous interroger sur notre vie avec Jésus. Est-ce que nous avons besoin de réchauffer cet amour? Lui m'aime. Mais est-ce que moi, je l'aime vraiment en retour? Dans quelle mesure? Je peux me convaincre que oui, mais il y a un critère qui me permet d'examiner si vraiment j'ai cet amour profond pour Jésus en retour. Si je n'aime pas mon frère que je vois, comment puis-je aimer Dieu que je ne vois pas ? Et l'apôtre Jean ne s'y trompe pas. Il dit, si quelqu'un dit qu'il aime Dieu mais qu'il n'aime pas son frère, c'est un menteur. C'est-à-dire qu'il se ment, il s'illusionne. Il n'est pas dans la réalité des choses. Et c'est tellement dommage. Alors, pour pouvoir aimer nos frères et sœurs, nous avons besoin d'être aimés du Seigneur et de creuser cela. Parce que c'est difficile d'aimer les autres quand on n'a pas reçu soi-même l'amour. Hein ? Comment donner l'amour quand on ne l'a pas reçu ? C'est compliqué. Eh bien, plus nous allons recevoir et comprendre combien Jésus nous aime, et mieux nous allons pouvoir transmettre, reproduire envers les gens qui nous entourent l'amour. Et c'est pour ça que Jésus a dit à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ce n'est pas que c'est un amour qui va émaner de nous-mêmes, comme si on était des créateurs d'amour. Non. C'est parce que Dieu nous aime. Et la Bible nous dit, Dieu est amour. Dieu est amour. Et parce qu'il m'aime, c'est comme un torrent, tout l'amour que je reçois de Dieu, plus j'en prends conscience, plus je le mesure, plus je le goûte, plus je m'en émerveille. Plus je m'en indigne presque. Comment le Seigneur peut m'aimer alors que je suis comme ceci, que je fais ceci, cela? Des fois, je trouve moi que, comme Jésus nous aime, on pourrait s'en offusquer. On dirait, franchement, je ne le mérite pas. Et pourtant, il nous aime. Et quand on arrive comme cela à s'émerveiller combien Dieu nous aime en dépit de nos défauts, de ce que nous sommes, de notre infidélité. Mais même si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Et lorsque tout ça nous touche, alors ce torrent peut jaillir sur les autres. Nous sommes aimés de Dieu, alors nous pouvons aussi aimer les autres. Nous avons besoin de nous recentrer sur cette tendresse de Jésus pour nous, y compris dans l'évangélisation. Nous voulons parler du Seigneur aux gens, mais pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Pour avoir plus de chiffres d'affaires dans la comptabilité de l'Église, parce qu'il y aura plus de membres qui donneront plus d'argent ? On n'en a rien à faire. Si on a envie de parler de Jésus aux autres, c'est parce que nous avons conscience des brebis qui sont aux mains des mercenaires et du voleur qui ne cherchent qu'à égorger et détruire. Et nous désirons pour ces brebis qu'elles viennent dans la bergerie du bon berger. Venez dans la bergerie du bon berger. Vous allez voir comment il aime ses brebis. C'est super. Et on a envie d'inviter les gens autour de nous. Venez rencontrer ce bon berger, ça va vous changer la vie. Hein. Fini le voleur, fini le mercenaire, ça va vous faire tout drôle. Venez vous aussi dans la bergerie. Mais comment annoncer l'évangile ? Comment prêcher si nous n'avons pas d'amour ? Si nous ne sommes pas animés par l'amour. Pour parler de Jésus aux autres, nous avons besoin d'aimer les âmes perdues comme Jésus les aime. Voilà ce matin ce que j'avais à cœur de partager. Retenons simplement cette seule chose. la tendresse du bon berger pour nous. Prenons le temps de nous en émouvoir, de nous en émerveiller, parce que ça va remettre des choses en place dans notre vie chrétienne, pour que nous puissions vivre une vie qui se fonde sur l'amour, et qu'ainsi nous puissions vivre aussi une vie sainte, pure, à partir du fait que nous aimons le Seigneur. Une vie qui va se mettre au service du Seigneur, parce qu'on l'aime. Une vie qui va parler de Jésus aux autres, parce qu'on les aime, parce qu'on est aimé. Et une vie où, parce que nous sommes aimés, nous allons devenir capables d'aimer notre frère, notre sœur, en dépit de ce qu'il, de ce qu'elle est. Et ça, c'est tout un programme. Et plus nous recevrons l'amour de Jésus dans notre vie, et plus nous le pourrons. Amen. Prions. Seigneur, nous te remercions de cette force d'amour, de tendresse avec laquelle tu nous aimes. Merci parce que tu nous appelles par notre nom. Tu nous connais dans notre histoire, dans nos spécificités. Ah, tu nous connais bien. Tu nous aimes, tu prends soin de nous. Tu nous fais entrer, sortir, trouver les pâturages pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Merci pour ta voix que nous pouvons connaître. Seigneur, je veux te prier pour quelqu'un qui, dans son cœur, peut-être, se dit « J'ai envie de devenir une brebis de Jésus. J'entends sa voix ce matin. Je veux y répondre. Je veux entrer par la porte afin d'être sauvé. » Seigneur, s'il y a quelqu'un ce matin qui hésite, qui réfléchit, que ta voix puisse pénétrer dans son cœur, qu'il entende ton appel et qu'il entre dans la bergerie en te disant « Seigneur, me voici, je viens à toi, je veux être ta brebis. » Au nom de Jésus, amen.